Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de cette histoire de Leonardo DiCaprio qui refuse de sortir avec des meufs passé un certain âge. Âge qui, au demeurant, n'est pas très élevé. Il me semble que c'est un truc genre 24. Passé 24 ans, il largue ses copines et en reprend une plus jeune. On pourrait se dire que c'est parce qu'il a le goût de la mannequin, de cette meuf parfaite, sublime, qui correspond à ce qu'on voit dans les magazines, mais je crois que c'est pas la seule explication. Si, comme moi, tu es une femme qui a pratiqué les mecs pendant pas mal de temps, je suis sûre que tu as connu cette même évolution. Au fur et à mesure de ta vie amoureuse, il y a des choses que tu as fini par ne plus accepter. Au fur et à mesure, tu as appris à te connaître, à savoir ce qui t'allait, ce qui t'allait pas, et à modeler ta vie amoureuse de façon à ce qu'elle colle le plus possible à ce que tu veux, avec plus ou moins de succès, bien sûr. Mais je crois qu'on est nombreuses à se rappeler de nos premières histoires en se disant « Oh mon Dieu, je n'avais aucun standard ». Eh bien, je crois que c'est ça que cherche Leonardo DiCaprio, parce que s'il cherchait simplement des femmes sublimes, il y en a qui dépassent largement les 24 ans. Mais ce qui le rebute le plus, c'est peut-être pas l'hypothèse de rides, de choses qui marqueraient la sortie de la jeunesse absolue. Je pense que ce qu'il évite, c'est d'être avec des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Luisa Amara est une de ces femmes, une femme qui sait ce qu'elle veut. Comme tout le monde, ça n'a pas été instantané, il lui fallait du temps pour savoir ce qu'elle voulait. Et parce que j'avais envie qu'on ait plus de modèles, de femmes puissantes, eh bien je l'ai invitée. Salut Louisa, bienvenue à toutes pour cet épisode de Cœur de Michto. Alors avant qu'on commence Louisa, je vais te laisser présenter un peu ton travail parce que tu es podcasteuse aussi et tu as un super podcast sur le célibat. D'où est venue cette idée?
Salut, merci. Et donc, je m'appelle Louisa Amara et j'ai créé le podcast Single Jungle, qui est un podcast dédié aux célibataires, single pour célibataire en anglais, et jungle parce que c'est la jungle des applis, des rencontres, le merdier. Voilà.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais vu passer des trucs sur le dating fatigue, le burn-out des rencontres.
Ouais, on est en plein dedans. Moi, je l'ai lancé il y a 3 ans et je vois que il se passe pas une semaine ou un épisode où j'ai pas des gens qui me font des retours sur cette fatigue des applis, de le temps que ça représente d'aller sur les applis, de matcher, de discuter avec les gens, d'avoir tout le temps un peu la même conversation pour filtrer les gens qui sont relous, qui mentent sur leurs intentions, etc. Et puis après, au final, il te reste peut-être une rencontre intéressante après tout ce tri et après la rencontre. Il y a un nombre de gens qui n'ont aucun respect, qui posent des lapins. Et après, ceux qui viennent, est-ce que le premier rendez-vous il se passe bien? Et est-ce que ça donne un deuxième rendez-vous? Bah là, franchement, tu perds 80% des gens là déjà.
Ah oui, tellement. Donc le mot de jungle, effectivement, n'est pas une exagération.
Ouais, complètement. Ouais.
Bon, bah du coup, on va justement parler de ça. Je voulais t'inviter pour qu'on puisse discuter de la notion, le fameux privilège qu'on aurait en tant que meuf sur le marché de la rencontre, d'avoir un accès incroyable à une immense variété abondante de sexe que les mecs s'imaginent. Je me suis dit que tu serais la bonne personne pour en parler. Est-ce que tu as déjà entendu ce truc-là, justement, que bah, les meufs, elles sont privilégiées par rapport à leur accès à la sexualité?
Oui, c'est un discours que je vois constamment. Pas que de masculinistes, on pourra y revenir, mais généralement c'est très très partagé par plein de mecs. Et au départ, j'étais assez d'accord sur le principe de la base, c'est si une femme a envie d'une relation sexuelle dans l'heure ou dans la journée, elle pourra trouver un partenaire sans trop de difficultés. Alors que si un mec veut la même chose, ce sera plus compliqué de trouver quelqu'un qui est d'accord sans qu'il ait à rémunérer cette personne. Voilà.
Exactement, l'accès gratuit. Ouais. Donc au début, je dis ah oui, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce que t'as eu des situations où t'avais justement un espèce de traitement entre guillemets inégalitaire entre les meufs et les mecs où tu disais ah oui tiens, c'est vrai que du coup on n'est pas logé à la même enseigne, tu sais, cette fameuse entrée gratuite en boîte de nuit ou des trucs comme ça?
Oui, ça j'ai pu le constater. Moi personnellement, j'ai pas pu aller dans ce type d'endroit parce qu'ils sont pas du tout bienveillants et que en tant que femme grosse, ben j'étais pas acceptable pour ce type de critères-là. Et puis je sais aussi que par exemple pour d'autres lieux où là les femmes sont recherchées, comme tout ce qui est club libertin, je sais que là-dessus aussi, moi c'est à titre féministe, je voulais pas y aller parce qu'il y avait par exemple des tenues exigées pour les femmes qui n'existaient pas forcément pour les hommes, vous avez le droit de venir en pantalon par exemple, alors que les filles, bah non, si t'as pas une jupe ou quelque chose de spécifique et des talons, tu n'as pas le droit d'entrer. Et enfin, juste non, en fait, je refuse qu'on me dise comment m'habiller pour entrer dans un lieu spécifique où normalement on va partager du plaisir. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une tenue pas avilissante, mais voilà, une tenue qui est là pour plaire aux hommes, parce que sinon, si t'es en pantalon, juste t'es pas baisable. Enfin, voilà, donc ça arrive aussi qu'il y ait ces différences de traitement entre les hommes et les femmes sur la tenue ou sur bah voilà, qu'est-ce qui est acceptable comme physique ou pas, quoi.
Ouais, du coup, il y avait une espèce de gratuité, mais d'un endroit où t'avais pas du tout envie d'aller, où on te disait, bah, tu peux rentrer que s'il y a des conditions qui sont remplies, donc une espèce de gratuité un peu biaisée. Tiens, prends un échantillon gratuit d'un truc dégueulasse. Bon, non, merci, en fait, je prendrai pas. Est-ce que tu te rappelles le moment, où t'as fini par te dire, ouais, d'accord, effectivement, on peut avoir accès, entre guillemets, facilement à du sexe, mais ça ressemble pas au privilège qu'on me vend, un truc, qui serait hyper cool.
Ouais, bah en fait, je me suis rendu compte que d'abord, quel type de sexe est accessible si facilement en claquant des doigts, bah déjà, je pense que la priorité c'est qu'on se sente en sécurité. Donc voilà. Donc est-ce qu'on va le faire avec n'importe qui, juste en contactant la personne dans l'heure, dans la journée? Moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais parce que c'est une situation de danger potentiel. Et puis est-ce que cette rencontre, mettons qu'elle se passe en sécurité, est-ce qu'on a la garantie que ce sera un partenaire qui fera attention à nos désirs? Et qui fera pas juste ce qu'il a envie de faire lui, c'est-à-dire bah, se masturber dans notre corps, quoi. Donc voilà, on n'a pas cette garantie-là. Alors même si on peut avoir plus de propositions. Et après, là où j'ai réussi à retourner le stigmate entre guillemets en discutant avec des masculinistes un jour, je me suis dit, allez, on va essayer de leur expliquer juste les stats. Si je partais sur la sociologie de, non mais juste, vous avez compris que vous êtes plus nombreux dans certaines régions d'hommes célibataires que de femmes célibataires et que du coup vous avez un avantage en nombre. Ça c'est factuel. Et ils me disaient, oui, mais vous pouvez quand même essayer de choisir, même quand il y a plus de... Vous êtes moins nombreuses, vous pouvez quand même choisir. Et j'avais dit, ok, on va repartir d'une base. J'ai expliqué que j'étais une femme, en l'occurrence quadragénaire, donc là maintenant j'ai 43 ans. Donc déjà, j'ai moins accès à tous les hommes que je souhaite. Il y a des hommes qui n'accepteront pas de fréquenter une femme de tel âge. Ça, c'est une base. Ensuite, et c'est quand même le premier truc qui vient, le physique. Là, c'est des stats IFOP qui sont assez récentes. Il y a un homme hétéro sur deux qui refuserait de sortir avec une femme qui n'est pas dans la norme. Voilà. Et c'est quoi la norme? Eh ben, une femme qui n'est pas blanche, bah pour eux, c'est une femme qui n'est pas dans la norme. Déjà, donc en tant que femme racisée, bah je serais rejetée par rapport à ça. Entre parenthèses, quelqu'un qui me rejette parce que je suis pas blanche, eh ben j'ai pas envie de lui non plus, hein. Donc ça me va bien. Mais voilà, si on est hors norme dans le sens où on n'est pas blanche, on n'est pas mince, éventuellement on a une pilosité qui ne leur convient pas, on est éventuellement plus grande que ou on il y a encore plein d'autres critères comme ça. Bah voilà, vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes par exemple en situation de handicap. Eh ben non, on n'est pas d'accord. Donc tu dis un homme sur deux, mais en fait il reste quoi alors? Il reste des hommes qui sont partants pour des filles dites hors normes, mais ces hommes-là sont très probablement déjà en couple.
Est-ce que ça va être une sexualité où je vais pas être juste la bénévole de l'autre, quoi? Enfin, un truc.
Oui,
Et
c'est
ce
ce sera un vrai
truc-là.
échange, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir prendre du plaisir tous les deux? Est-ce qu'on sera à l'écoute? Moi, j'ai en tête un rapport que j'ai eu pas très longtemps où bah lui, il a pris du plaisir, moi aussi, sauf que moi, j'ai pas fini en fait. Juste, j'ai pas fini. Et lui, il a fini et il est fatigué. Et je dis, est-ce que tu serais d'accord pour m'aider à continuer? Parce que moi, j'ai encore envie et peut-être avec tes doigts, par exemple, si au niveau de ton pénis, c'est ok. Il a fini son job, il y a pas de problème. Mais tes doigts, ça pourrait être bien. Ta langue, c'est encore autre chose. Pourquoi pas? Je peux comprendre qu'il y a des stats aussi là-dessus sur le nombre de mecs qui refusent le cunni, alors que nous, les meufs, on est obligés de faire de la fellation. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Et donc, il me dit, non, mais je suis trop fatiguée, en fait. Même te doigter, je suis trop fatiguée. Et bah, c'est OK. On est dans le consentement, dans la discussion. Il est pas OK pour continuer ce rapport. Donc, je finis frustrée. Et je lui pose même la question, est-ce que t'es ok pour que bah moi je finisse de mon côté, quoi, tu sais, comme ça tu verras comment je fais, ça pourrait être un peu stimulant. Il me dit non, j'ai pas du tout envie que tu te masturbes devant moi, alors en fait le rapport est terminé, quoi. Ouais, et bah donc du coup ça revient à ce qu'on disait, est-ce qu'on peut avoir accès à de la sexualité comme on veut, quand on veut, et de bonne qualité, et sans être frustré? Bah la preuve que c'est pas garanti à chaque fois, hein.
Ouais, c'est vrai que du coup, c'est moi l'exemple que j'aime bien donner quand on me parle de ce truc-là, de dire que je suis soi-disant une méga privilégiée sur le marché sexuel par rapport aux gars. Je dis, mais en fait, nous, ce qu'on a accès facilement, ce truc-là que vous fantasmez sur un accès facile, c'est le fait d'être baisé, en fait. Et vous y avez accès aussi, en fait. Si vous allez sur une appli de rencontre gay, vous allez trouver un gars qui est partant pour vous baiser, il n'y a pas de souci.
Ah ouais, mais est-ce qu'ils ont envie que ce soit ça? C'est ça le sujet.
Ils disent, ouais, mais c'est pas pareil, etc. T'es là, mais enfin, faut commencer à comparer des trucs qui sont comparable quoi, genre vraiment ce truc, ce rapport, enfin voilà, comme tu dis, un truc vertueux qui est dans les deux sens. Ça non, c'est pas un accès facile, instantané en claquant des doigts. Et même, je me disais, je considère que je suis quand même assez privilégiée sur justement ce fameux marché de la sexualité. J'avais un dialogue comme ça avec une personne qui était, bon, du coup, comme tu dis, pas un mec masculin, un mec qui était plutôt féministe, etc. Quand j'étais en train de faire tout mon boulot sur le podcast Cœur de Michto, etc., je me dis, bah là, à ce stade-là de ma vie, ce à quoi toi t'as eu accès dans toute ta vie sexuelle, je n'y ai jamais eu accès. L'accès à un mec qui est excité à l'idée que je sois excité, qui est excité à l'idée de provoquer du fantasme chez moi, qui est excité à l'idée de me plaire, ça, je n'y ai jamais eu accès. Donc, c'est pas parce que toi, tu n'as pas eu accès 50 milliards de fois que forcément, ça veut dire que nous, on a un truc super cool et ça. Ce truc-là, en fait, jusqu'à maintenant, j'en ai été exclue. Et je trouvais ça assez horrible, tu vois, de me dire, je peux tomber sur des gars... je veux dire, j'ai quand même une vie sexuelle avec pas mal d'amants et dans le tas, quand même, beaucoup de gens où il y avait une relation qui pouvait être chouette, de la réciprocité, pas totale, tu vois, jamais, mais des trucs cool. Mais ce stade-là, en fait, ce à quoi vous avez accès, les mecs, parce qu'on a été sociabilisés à kiffer votre plaisir, vos orgasmes, votre fantasme, votre désir, enfin, le fait d'être, de vous exciter, qu'on était sociabilisés à être excités, à l'idée de vous exciter, ne serait-ce que ça. Ça, en fait, c'est un truc qui, enfin, pendant très très longtemps, m'a été totalement inaccessible, quoi. Donc là, c'était même plus de dire on va pas chercher les chiffres. Là, j'en suis à zéro d'une configuration que toi, t'as connue plusieurs fois.
Ouais, et puis après, l'autre différentiel, je pense, essentiel, c'est le. Eux, ils ont accès. Très facilement à un nombre de femmes qui sont partantes pour une relation durable, une relation amoureuse ou pour s'impliquer, pour s'investir. Et ça, des femmes qui veulent ça, il y en a énormément. Et il y a aussi des femmes qui veulent juste s'amuser. Il y a les deux, peut-être pas dans la même proportion, mais il y a les deux. Nous, on n'a pas forcément accès à autant de gars qui sont OK pour s'investir. Clairement pas.
Ouais. Oui, en plus, c'est même traité comme un truc genre « Ah, bad, une relation investie, quelle horreur !» Mais gars, en fait, tu vas être juste hyper favorisé là-dedans, et en plus, tu nous fais croire que tu nous fais une fleur.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, c'est là, en mode genre « Mais le monde est à l'envers, le monde est putain à l'envers, quoi. » Bref, donc du coup, maintenant qu'on est bien d'accord sur le fait qu'effectivement, le privilège est quand même assez... quand on veut nuancer, on n'y est pas du tout. C'est pas vraiment un privilège, mais on a quand même ce truc de, justement, quand on a fait le tri qui est long et fastidieux et chronophage et qu'on arrive sur les gars où on se dit là, ça vaut la peine que je revienne, ça se passe pas trop mal. Moi, je me posais la question, qui sont ces bons amants, ces gars où on se dit, ok, j'ai envie qu'il y ait. Enfin, le gars a passé le test, en fait, ça se passe bien. Est-ce que quand est-ce que tu sais que le gars, tu te dis, bon, là, il y a quelque chose où on peut creuser, c'est est-ce qu'il y a des critères, est-ce que t'as un style de mec?
Alors, il n'y a pas forcément de style physique, ça, je suis revenue là-dessus. Je pense que ça vient avec l'âge, la maturité, on se rend compte qu'on va trouver du charme à des gens parce qu'il y a un rapport intellectuel, il y a un rapport de confiance et tout, et que c'est pas forcément lié à un physique spécifique, mais il faut qu'il y ait une complicité et surtout de l'écoute. Il faut qu'il y ait un potentiel où on sent que typiquement, on peut discuter de tout, de tous les sujets. Et quelqu'un qui est ouvert à la discussion avant et après le sexe et pas quelqu'un qui te dit « Non mais moi, en fait, je trouve que c'est super ce qu'on fait au lit, mais juste, j'ai pas du tout envie qu'on discute, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. » Bah ça, non merci, en fait. C'est la moitié du plaisir, voire parfois plus, de la relation sexuelle, pour moi, c'est la discussion avant et post-sexe. C'est pas que l'exercice physique. Et donc, le sujet, c'est est-ce que... il peut y avoir un rapport de confiance, dans le sens où je me sentirai toujours en sécurité avec la personne dans le rapport sexuel qu'on va avoir, il va jamais me forcer, il va toujours être dans la discussion, la proposition, et moi aussi je vais me sentir suffisamment en confiance pour faire mes propositions sans être jugée. Et là, effectivement, si on a pris du plaisir tous les deux, bah pourquoi pas se revoir, sauf que je vais me rendre compte que les amants que j'ai et qui correspondent à ça, ils sont super, hein, mais c'est pas des gens qui sont ouverts à une relation amoureuse. Ils sont plutôt dans le cadre amant et pour certains célibataires, pour d'autres non. Mais il a fallu recadrer au bout d'un moment. Pour certains, c'était pas précisé qu'ils étaient pas ouverts à une relation durable. Au contraire, il y avait écrit homme sérieux sur le profil. Homme sérieux. Après, on m'a expliqué que c'était un appât, ça, je connaissais pas. Je pensais que homme sérieux, c'est que le mec, il est sérieux, quoi. Il est carré et tout. Ça veut peut-être dire qu'il se trouve carré dans la vie, dans son fonctionnement, en tant qu'homme, en tant que professionnel, en tant que père, en tant que ce que tu veux. Mais ça veut pas dire ouvert à une relation sérieuse. Il faut vraiment clarifier très vite, quoi. Voilà. Mais il a fait exprès de mettre ça. Il est pas con. Il sait que le mot sérieux, ça va attirer plein de filles, quoi.
Est-ce que tu lui en as voulu d'avoir écrit un truc pareil?
Tu sais, c'est vraiment un truc de meuf. Je m'en suis voulu à moi de pas poser la question.
Ah ouais.
Et après, je me suis dit, mais pourquoi je m'en veux à moi? C'est lui qui a utilisé cet appât. Moi, je suis la proie, en fait. Donc, pourquoi je...
Oui, il savait que ça allait bah utiliser les attentes.
Donc, ouais, j'en ai voulu. On s'est pas vu pendant quelques temps parce que il y avait vraiment un différentiel entre les attentes attentes et ce que je pouvais imaginer, qui me laissait imaginer, et puis bah le concret où je vois que finalement bah il y a plein d'étapes qu'on pourrait avoir ensemble et juste voilà, moi je dis de clarifier, de dire les choses, comment tu vois les choses, comment tu vois notre relation, la fameuse question quoi de on en est où, on va où quoi. Et ben non, mais moi je trouve que c'est bien, moi je vois au jour le jour, ouais mais non, enfin ça fait plaisir à qui d'entendre ça, je vois au jour le jour, non, moi je me projette, toi t'es capable ou pas. Et dès lors qu'il m'a dit que non, ben ok, ben on réoriente, soit je m'arrête complètement, mais c'est ce que j'ai fait pendant un temps, puis dis je veux plus le voir pendant un temps parce que j'avais mis un peu d'affect quoi, voilà. Et puis après je suis dit bon, peut-être que lui je pourrais le revoir, mais beaucoup moins souvent, pour être moins attaché et moins souffrir éventuellement. Et juste je vais le voir comme un amant parmi d'autres, et sans doute moins que d'autres, vraiment en termes de fréquence et en termes de profondeur de ce que je peux partager avec un amant. Lui il aura moins que d'autres. Exemples, c'est quelqu'un qui n'est jamais venu chez moi et qui me pose régulièrement la question, est-ce qu'un jour on ira chez toi. Je lui dis ouais, je sais pas, peut-être, on verra. Et en fait, spoiler alerte, ma décision est prise depuis longtemps, je ne veux pas qu'il vienne chez moi. C'est quelqu'un qui n'aura pas ce privilège là parce que mon chez moi,
ça a de la valeur en fait, ça a de la voilà. valeur, et ça demande effectivement c'est un engagement, enfin un truc réciproque. En fait, tu laisses un accès à quelqu'un qui laisse un accès et à quelque chose qui vaut la même chose. Peut-être pour lui, son appart, ça vaut pas la même chose que ce que ça vaut pour toi.
Bah oui, puisqu'il a reçu plein de gens et qu'il s'investit pas plus que ça. Et puis voilà, moi je me sens pas, je me visualise pas du tout en train de le recevoir. Autant d'autres amants en qui j'ai confiance, que je connais depuis longtemps, avec qui ça se passe bien, sur qui j'ai pu compter, sur qui sont au-delà d'amants, qui sont même des amis quoi, j'ai pu me confier à eux tout. Lui, il a pas ce rapport-là, donc a priori il mettra pas les pieds chez moi quoi.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on ne situe pas son intime forcément aux mêmes endroits.
Ouais.
Et des fois, quand on dit « si moi je fais ça, l'équivalent, etc. », dire « mais en fait, tu ne parles pas de la même chose là. Tu ne parles pas de la même chose. » Et sans doute, pour lui, son appart n'est pas du tout un truc intime. Et toi, en fait, justement, tu as besoin de ce degré de confiance, ce degré d'implication pour laisser accès à un truc qui relève de, enfin, ouais, d'un espace... c'est des espaces de fragilité aussi. Donc, les laisser à des gens qui n'en prennent pas soin, c'est dangereux, en fait.
Ouais, d'ailleurs, j'avais une invitée qui avait utilisé l'expression super imagée et intéressante de « mais juste, on ne va pas laisser le loup entrer dans la bergerie, en fait. » Je me suis dit, mais c'est joli. Et puis, c'est aussi une façon de marquer ton territoire et marquer tes limites. Parce que moi, j'avais eu une expérience une fois avec quelqu'un dont j'étais amoureuse. Et lui, il me dit qu'il est amoureux aussi. Mais visiblement, il n'avait pas exactement les mêmes limites que moi sur le respect du chez-soi, de l'autre. Et je lui avais dit, écoute, je veux bien qu'on vienne chez moi parce qu'on peut pas aller chez toi parce que t'es entre deux apparts et tout, je comprends. Mais il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est que le salon n'est pas arrangé comme je le souhaiterais. Et donc, on n'ira pas dans le salon. On ira dans les autres pièces dont on a besoin, la chambre, la salle de bain, les toilettes, le couloir, ce que tu veux, mais tu n'entreras pas dans ce salon, et c'est très important pour moi que tu respectes cette consigne-là. Est-ce qu'on est OK sur cette base-là?
Ouais.
Il me dit, c'est bon, moi, je suis pas un enfant, t'as pas besoin de le répéter, il n'y a pas de problème, je respecte les appartements des uns et des autres, voilà, on me dit de pas aller dans une pièce, je vais pas dans la pièce. Et évidemment, il a profité du moment où j'étais aux toilettes pour ouvrir la porte du salon. Et quand j'ai vu ça, et qu'il m'a dit « Oh, ça va, c'est un peu bordélique, mais ça va. » Moi, pour moi, c'était une trahison de ma confiance. Et sa réaction, ça a été « Mais franchement, t'exagères, c'est pas bien grave. » Je lui dis « Ah bah, en plus, tu me fais du gaslighting. » C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de ressentir les émotions que je reçois, que je ressens actuellement. Je suis pas bien par rapport à ce que tu viens de faire. Et tu me dis que c'est rien, tu minimises. Mais enfin, il y a rien qui va, là, en fait. Il lui a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre et pour me présenter ses excuses par rapport à ça. Et j'en avais parlé à des potes, et il y en avait qui m'a dit « Ouais, franchement, t'exagères. » Je dis, putain, mais juste, vous comprenez rien, en fait. Laissez tomber. Et les meufs, par contre, elle comprenait, le syndicat des meufs, comme tu dis, mais oui, enfin, juste ton intimité, t'as donné une consigne claire, et c'était pas un test de ta part, c'est juste que voilà, tu es chez toi, et tu ne veux pas qu'on aille dans telle ou telle pièce, ou qu'on ouvre tel ou tel placard. Putain, mais c'est pas compliqué, c'est un adulte, c'est pas un enfant qui va aller faire un truc interdit. Et ben voilà, donc moi je pense que ça m'a marqué durablement, ce truc-là, et depuis, j'ai pas reçu beaucoup de nouvelles personnes, c'est que des gens en qui j'ai déjà confiance à la base qui sont venus chez moi quoi.
Ouais. Oui, c'est les conditions dans lesquelles tu te sens à l'aise. Donc en fait, la question c'est pas savoir quelles sont ces conditions, si elles sont bizarres ou pas, en fait c'est tes conditions à toi et comment la personne en face elle se comporte par rapport à cette question de est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut pour que tu te sentes à l'aise. Y a pas de réponse unique à ce truc là, y a pas genre tel truc rend tout le monde à l'aise et tel truc rend tout le monde pas à l'aise.
Bah non, on est tous différents, tu vois. Moi, je juge pas, mais ça a mis presque un arrêt à la relation à un moment donné. Et puis de toute façon, après, je pense que c'était un red flag pour me montrer que le respect des limites, le respect de l'autre était pas forcément là à chaque fois. Et qu'on a beau avoir des sentiments, visiblement, on n'a pas la même notion de respect de l'autre. Et donc, voilà, ça s'est arrêté. Mais quelles sont mes limites et est-ce que l'amant va respecter ça? C'est une base. S'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas toutes ces conditions, ça sera pas un amant régulier, clairement.
Oui, c'est vrai que je sais pas comment. Enfin, si c'est un truc qui est assez commun, je pense que oui, quand même, de ces plans cul qui sont des espèces de plans cul affectifs, tu vois, où il y a un lien de confiance autre que juste cette question sexuelle. Moi, je sais que c'est un truc qui était hyper important. Je me rappelle la première fois que j'ai eu vraiment un amant, où c'était vraiment très clair que c'était un amant, que c'était pas un futur amoureux, parce qu'il y a ça aussi, hein. Des fois, on se dit, je couche avec la personne, et puis la relation va évoluer, etc. Et on espère que ça évolue, et on sait pas trop comment l'aborder, machin, etc. Là, c'était très, très clair, parce qu'à l'époque, j'étais mariée, en fait. J'étais mariée, j'étais en grosse rébellion, j'étais très jeune. Et je m'étais dit, j'en ai marre, je prends un amant. Genre vraiment un truc. Donc, dans la tête, c'était vraiment très clair. Le gars, pareil, c'était très clair pour lui aussi que bon, ça allait pas déboucher sur une relation et c'est une relation qui a duré longtemps, hein. On a continué, alors pas toujours de la même égalité, mais on a continué à avoir des contacts pendant peut-être genre 5-6 ans, tu vois, genre vraiment et je sentais que cette relation, elle avait ça qui était riche, c'est qu'on avait pas de mal à se dire, ok, il y a du sexe et on s'empêche pas de pouvoir parfois s'appeler quand ça va pas et que ça rien de sexuel, se faire la paix avec le fait que il y a des sentiments aussi qui peuvent être là. Et pour moi, ça me donnait pas plus envie de faire couple avec cette personne parce que clairement, on n'aurait pas été compatibles en termes de couple. Mais ça participait énormément à ce truc que ce soit pour moi dans ma tête c'était un plan cul et je me dis bon c'était un plan qu'est-ce qui dit ça un plan cute
Ouais, c'est marrant, c'est un plan cul, plan cute. Ouais, c'est rigolo.
je crois que c'est ça j'ai un vieux souvenir je sais peut-être je me suis plantée mais un truc du genre tu vois un truc un peu mignon tu vois et ouais il y a une dimension en plus quoi c'est pas
De toute façon, le sexe, c'est jamais à 100% anodin, sauf effectivement dans un rapport tarifé particulier. Mais si on partage un moment intime, parce que la sexualité, c'est un moment intime, il n'y a pas que le côté sportif de l'acte, il y a des orifices, on fait des trucs avec. Non, je veux dire, on se regarde dans les yeux, on s'embrasse plus ou moins langoureusement, il y a un partage, on discute, on s'intéresse à l'autre. Tiens, qu'est-ce que tu deviens? T'en es où? Puis on était resté là de tes histoires, on se raconte un peu nos vies. Et je vois pas comment il peut pas y avoir un petit peu d'affectif. Il y a une forme d'affection. Maintenant, il y a affection et attachement. C'est pas la même chose. Et effectivement, et je comprends très bien, moi, il y a des gens qui me disent, je suis incapable, surtout des filles, parce qu'on les a élevées comme ça aussi, hein. Je suis incapable d'imaginer une relation sexuelle régulière ou ponctuelle si je ne ressens pas des émotions fortes et donc des sentiments. Il y a même un terme qui a été inventé pour ça, demi-sexuel. Et donc, c'est des gens qui peuvent pas avoir de rapport sexuel s'ils n'ont pas des sentiments forts. Je me dis, mais personne te force. Il n'y a pas de problème. Si pour toi c'est une violence d'imaginer que tu pourras pas t'attacher à l'autre parce que voilà, tu vas rentrer dans la dépendance affective, ok, juste quelle part de toi a vraiment décidé ça? Est-ce que tu penses vraiment que c'est ce que tu ressens au plus profond de toi? Ou est-ce que c'est beaucoup du conditionnement, de la construction? Et est-ce que t'es pas un peu dans la matrice? Et je veux pas non plus faire le truc inverse, genre, il faut juste que tu sois libéré, que tu baises avec tout le monde, et là tu vas voir, tu vas kiffer. C'est pas ça. C'est que quand on se détache un tout petit peu de se dire, mais je suis sûr que je vais être attaché et je vais souffrir, tu sors de ça et tu dis, attends, juste j'essaye. Et je vois comment je me sens après. Et ma pratique à moi, c'est il n'y a pas d'attachement dangereux dès lors que tu as plusieurs amants, parce que peut-être ton cerveau il est bien foutu, il se dit non non mais tu vas pas t'attacher à deux trois personnes en fait, je sais pas faire, c'est compliqué, j'ai pas le logiciel pour ça. Donc j'ai l'impression, est-ce que c'est une dose d'ocytocine qui est différente? Je rentrerai pas là-dedans, mais moi il se trouve que je me suis pas attachée et je suis pas tombée amoureuse de mes amants sous prétexte que on s'était vu régulièrement pour baiser ou même pour aller au cinéma ou pour se balader. Ouais, mais là, tu es en train de faire tout ce que les couples y font. Je dis, mais c'est écrit où ça? Donc, avec un amant, on n'a pas le droit de se balader. Il faut juste faire du sexe, c'est ça? Je dis,
C'est
non, mais c'est.
interdit.
Voilà,
Il y a des
tu n'es
lois.
pas dans les règles. Voilà, du coup, en fait, c'est à toi de. Et avec le partenaire ou la partenaire de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Et est-ce qu'on est obligé de mettre l'étiquette couple dedans ou est-ce que en fait non, on passe un bon moment et puis on voit. Et je pense que le truc qui fait que tu sais que tu le vis bien, c'est quand l'autre te dit qu'il a fait d'autres rencontres, qu'il a de nouveaux partenaires et que ça se passe super et que toi, bah, ça, c'est cool. Soit ça te glisse dessus, soit même t'es content. Donc là, c'est la compersion, ce sentiment d'être heureux pour l'autre quand il prend du plaisir éventuellement avec d'autres personnes. Moi, je ressens pas de problème. Et d'autres, au contraire, bah, le fameux amant dont je parlais tout à l'heure, lui, là, justement, il me dit, mais on se voit quand et tout. Tu m'as dit que t'étais pas là ce week-end. Je lui dis, non, je pars avec un mec ce week-end. Il me dit, bah, j'aimerais bien te voir, mais il me faut un sas. Je lui dis, c'est quoi un sas? Il dit, bah, c'est un sas, comme un sas de décompression entre le moment où tu vas revenir de ce week-end avec cet homme et le moment où tu vas me voir. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que j'aurais été salie par le rapport que j'aurais eu avec ce mec-là.
Contamination.
Mais c'est ça, il faut un sas de quoi? De purification, de pendant un jour ou deux jours, ton corps, il a vu personne d'autre et donc il pourra m'accueillir. Mais ça sort d'où, ce truc? Bon, après, je sais qu'il y a des polyamoureux qui font ça aussi. Bah, Lucille Bélan, elle en parle dans son livre Polyamoureuse. Elle en a besoin, elle, à titre physique et mental, notamment pour des raisons, pas de vaginisme, mais bon. Elle explique dans son bouquin que elle se sent bien quand elle a une pause entre et c'est à elle de décider 24 heures, 48 heures plus ou moins, une pause aussi émotionnelle entre ces deux amoureux, et c'est décidé, c'est vu ensemble, ça il y a pas de problème. Mais pour moi c'est pas pareil quand il y a eu cette discussion ensemble que un mec qui me dit j'ai besoin d'un sas parce que t'as vu un mec et donc ça me va pas de te voir après.
Oui oui, mais... là c'est elle qui décide d'un sas parce que c'est voilà. C'est besoin à elle, tu sais, un truc de un peu de saturation, tu vois, de pouvoir redescendre
faire une pause quoi, oui, laisser le corps se reposer, prendre un peu le temps, retrouver le désir de l'autre, ok, mais moi si je ressens pas cette envie-là, et si ça me va de voir une personne le lendemain ou le surlendemain, je vois pas où est le problème et j'ai pas envie d'entendre que le type dit oui mais en fait j'ai besoin d'un sas parce que je cite ça me fait bizarre que t'aies vu un mec avant moi. Ouais, mais on rappelle qu'on est juste des partenaires en fait, et donc quand tu tires le fil tu vois que derrière tout ça, il y a un fond de jalousie et un fond de mais moi j'ai envie d'aller vers plein de meufs et il y aurait pas de problème que je vois plein de meufs, y compris la veille ou le jour même d'un rendez-vous avec toi. Mais toi, je veux pas que tu aies droit à la même chose.
Ouais, c'est là tu sens qu'il y a un truc pareil. Tu dis bon.
Il y a un déséquilibre, ouais, clairement.
Ouais, petit déséquilibre là, n'est-ce pas? On n'est pas sur un truc totalement réciproque. C'est quoi l'engagement? C'est quoi l'attachement?
Et les gestes aussi, tu sais, prendre la main de quelqu'un.
Ouais.
Est-ce qu'on a le droit de prendre la main? Est-ce que c'est ok de le faire dans le cadre de autre chose qu'un couple?
Ouais.
Ou est-ce que si on se tient la main, c'est qu'on est en couple? Mais il y a plein de cultures où il y a des gens qui se tiennent la main, même des fois des hommes entre eux hétéros, mais parce que ça fait partie, ce côté tactile, de la culture en question.
Ouais,
et ben, je pense qu'il faut détacher du couple tous ces éléments qui relèvent un petit peu du côté tactile, du côté affectueux, donc se prendre la main, se balader ensemble, se faire des sorties, comme tu fais des sorties avec des amis, bah simplement là c'est des amis amants, donc il peut y avoir effectivement un côté tactile, et je vois pas pourquoi seuls les couples auraient droit à ce privilège là quoi. Mais il faut en parler, il faut pas qu'il y ait un mélange des genres, parce qu'après effectivement il y a des gens qui peuvent se dire, même la personne, on se dit mais on fait plein de choses que je faisais quand j'étais en couple, mais on n'est pas en couple, donc c'est quoi? Bah là il faut définir les termes.
Oui, on est perdu hein, c'est t'as quoi, soit le couple soit pas le couple, il y a rien, enfin
ouais, alors qu'il y a plein de trucs entre les deux,
te dire bon il y a peut-être d'autres choses quoi que cette espèce de truc très bah, très binaire quoi,
c'est ça.
Bon, on arrive à la fin de la demi-heure d'interview. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cet épisode?
Mon mot de la fin, ce serait vraiment à destination des femmes, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus, parce que j'ai vraiment pas l'impression que les femmes aient moins de problèmes dans les rencontres que les hommes, bien au contraire.
Au contraire, ouais.
Voilà, et ce que je voudrais juste recommander à chacune, c'est de prendre le temps de se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'elles veulent vraiment elles. Parce que j'ai vu trop de gens, et moi la première, j'ai perdu énormément de temps à essayer de me conformer à ce qu'on attendait de moi en tant que femme trentenaire qui sortait d'une relation longue. Et ben il fallait que je me remette en chasse d'une autre relation longue et de faire famille et tout ça. C'était ça qui était dans mon programme. Ben voilà, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que finalement vous êtes pas super, super bien et bien dans votre peau en étant célibataire, au-delà des injonctions qu'on peut entendre? Et voilà, si on peut juste on a l'impression qu'on est dans une course, la tête dans le guidon pour rencontrer quelqu'un, et tu te poses deux secondes, tu fais mais attends, mais en fait ma vie elle me convient comme elle est, pourquoi je continue à aller sur les applis, pourquoi je cherche à faire des rencontres, pourquoi quand je vais à un mariage il faut qu'on me présente des gens, non, bah juste voilà, se pousse, on fait pousse, on s'arrête et on se demande vraiment ce qu'on a envie de faire nous. Ça pourra aider à la réflexion.
Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ta grande force d'être capable de dire ok, ça je veux pas.
Ouais.
et de dire ok, ça vaut la peine en fait que je m'y tienne quoi. Enfin, et c'est un truc qu'on n'est pas habitué à faire en tant que femme. On n'est pas sociabilisé à se poser la question de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas. Enfin, les deux questions sont assez taboues.
Ouais, d'ailleurs, dans ton podcast, il y a aussi ce sujet qui est un peu connexe, hein, mais parfois, nous, on n'a pas envie spécialement d'une relation sexuelle, mais le mec, il nous a montré son désir, et juste, on n'a pas envie de le laisser tout seul sur la béquille, quoi. Le nombre de fois où ça a dû arriver que, bah, on le fait, mais on n'avait pas plus envie que ça. Bah, juste, là, à ce moment-là, tu t'écoutes toi, juste toi, et tu dis, est-ce que vraiment j'ai envie, ou juste, il me fait de la peine, et voilà, bah, un peu du pity sex, quoi, tu vois.
Ouais. Bah, le désir de l'autre prend tellement de place qu'on sait même plus c'est quoi le nôtre.
Ouais. Donc juste s'écouter, quoi. Ouais.
Donc, ne serait-ce qu'apprendre à faire ça, c'est déjà donner un gros coup de pied dans l'hétéropatriarcat. On se rend pas compte, hein, à quel point c'est révolutionnaire de se dire de quoi j'ai envie, moi, en tant que femme. En tant que femme, c'est un truc qui a l'air si anodin et qui l'est tellement pas, quoi.
Bah déjà, faut connaître ses désirs, connaître son corps, connaître ses envies et les assumer. Je finirai peut-être là-dessus parce que j'étais choquée. J'ai un ancien amant qui m'a dit il est marié et il me dit qu'il a découvert après 9 ans, parce que sa femme en a enfin parlé après 9 ans, elle n'osait pas le faire avant, qu'en fait elle avait des désirs spécifiques de plug anal. Voilà, elle avait envie de ça, mais elle n'osait pas en parler. Si tu te rends compte, c'est ta femme. Vous avez vécu ensemble et elle t'en parle. Elle arrive à t'en parler au bout de 9 ans, ça dit quelque chose de votre relation quand même.
Pour dire à quel point on est à l'aise de parler de trucs intimes, à quel point on se sent à l'aise dans l'hétérosexualité.
C'est ouf. Mais après, tout le monde n'est pas comme ça, donc on connaît pas les traumas de la personne ni rien, mais ouais, apprendre à se connaître soi, c'est quand même une base, connaître son corps, ses envies, pas se forcer à faire des trucs parce que c'est la une des magazines et que t'as même pas encore essayé ça, t'es nul, mais plus de dire, ben, est-ce que je me connais, est-ce que je sais ce qui me fait du bien ou pas, ou est-ce que je sais même pas, et du coup, bah, je vois pas comment ça pourrait bien se passer dans une relation avec un autre, si même avec moi-même, j'y arrive pas, quoi.
D'ailleurs, je crois que c'est une des raisons qui est mise en avant, il y avait des chiffres sur la satisfaction sexuelle des femmes. Et donc du coup, je crois que c'était, bah, il me semble que c'était entre 40 et 50 ans la meilleure partie de leur vie sexuelle. Et donc du coup, une des raisons qui a été mise en avant de cette meilleure qualité de vie sexuelle, c'était que les nanas savaient ce qu'elles voulaient en fait.
Faut du temps, hein.
Ouais, et qu'elles le savaient pas avant. Dire, mon Dieu, il nous faut tant de temps. J'ai espoir que les générations d'après mettront moins de temps à l'apprendre.
Bah, tu vois, il y a Noémie Delattre aussi sur Instagram qui disait, et aussi dans son spectacle, c'est une autrice féministe, elle disait qu'elle avait dû attendre ses 30 ans avant d'essayer la masturbation. Parce qu'avant, elle pensait que c'était réservé aux personnes frustrées, que c'était sale, qu'elle est en couple, donc ça, elle avait l'impression qu'elle allait tromper l'autre en se masturbant. Voilà, donc c'est une autre génération aussi, mais tu te dis, mais... Enfin, je sais pas, c'est ton corps, quoi. Apprends à connaître ton corps. Et il y a plein d'ouvrages sur le sujet, donc bah, on va commencer par là, peut-être.
Ouais, c'est le problème de l'éducation sexuelle, de dire, enfin, c'est super important que les jeunes aient accès à de la vraie éducation sexuelle. C'est pas du tout anecdotique.
Ça changerait plein de choses.
Oh oui, ce serait merveilleux s'ils appliquaient la loi. Tout bêtement. Tout bêtement. Bon. Bah, merci beaucoup pour ce temps, d'avoir accepté de parler avec moi de ce que c'était qu'un bon amant.
Merci pour l'invitation, à bientôt.
Yes, bye bye. Merci de nous avoir écoutés. Quand j'ai terminé d'enregistrer cet épisode, je me suis fait deux réflexions. La première, c'est évidemment, comme toujours, il est important de comparer des choses qui sont comparables. Et l'histoire de ce sas que demandait cet amant après la rencontre avec d'autres personnes m'a fait me rappeler d'un point important. Je parle beaucoup de savoir poser ses limites. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous décourage de faire en tant que femme, de poser ses limites. Et parfois, quand on pose ses limites, on peut confondre et le comparer avec des choses qui ne sont pas des limites. Une limite, c'est une action, quelque chose qu'on fait soi-même pour protéger les contours de notre espace de confort. Parfois nos limites sont saines, parfois ne le sont pas, mais les limites ce sont des responsabilités personnelles. Donc quand cette jeune femme polyamoureuse décide elle-même d'avoir des sas parce qu'elle se sent mieux comme ça, ce sont ses propres limites. C'est une action qu'elle prend, elle, pour être confortable. Quand l'amant de Louisa lui demande de respecter un sas, c'est pas une limite qu'il pose, c'est du contrôle sur l'autre, puisque c'est pas une action qu'il fait lui, c'est une action qu'il essaye d'imposer à l'autre. Et j'avoue que je suis un peu terrifiée quand je me rends compte le nombre de femmes qui ne savent pas poser de limites parce qu'on les a empêchées de le faire, parce qu'on les a découragées de le faire, parce qu'on les a humiliées quand elles le faisaient. À quel point c'est une compétence vitale. Ne pas savoir poser ses limites, ça veut dire être incapable de poser une action pour défendre la zone dans laquelle on est confortable. En tout cas, cette grande force que je trouve chez Louisa, que je trouve puissante, c'est non seulement de savoir ce qu'elle veut, mais d'être capable de poser des actions. Et je trouve ça très inspirant. Enfin, le deuxième point que cette discussion m'a amené, c'est cette question effectivement du bon amant. Qui est ce bon amant? Et en discutant avec Louisa, qui parle de ce besoin en fait de pouvoir parler, de pas se cantonner simplement à la sexualité, je me suis demandé si ce qui faisait un bon amant, c'était justement cette question d'intimité. Pour les femmes, la sexualité, c'est un grand lieu d'intimité, un grand lieu d'insécurité. Et socialement, à l'inverse, quand on est dans une sexualité de consommation, quand les hommes sont incités à avoir une sexualité où ils consomment l'autre, eh bien la consommation, c'est pas un lieu d'intime, c'est pas un lieu de vulnérabilité. C'est pour ça que ces gars qui consomment plein de meufs, ils sont pas humiliés publiquement parce qu'ils n'ont pas été fragiles à ce moment-là, ils ont juste été des consommateurs, ils n'ont pas mis sur la table quelque chose qui était insécure. Et donc cet amant qui est capable de parler avant, de parler après, d'avoir d'autres moments que de sexualité, de connexion, eh bien je crois que c'est un indice que c'est un homme qui est capable d'avoir une sexualité où justement il y met de l'intime, il y met de la fragilité, il y met de la vulnérabilité. Et je crois que c'est un des ingrédients essentiels d'une sexualité égalitaire. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, on est conditionné, c'est difficile d'en sortir, c'est difficile de voir aussi quels sont les axes, les endroits où on n'a plus envie d'être, etc. Parce qu'ils sont tellement invisibilisés par cette société que ça rend la tâche encore plus difficile. Mais effectivement, je crois que c'est un indice. Donc ces amants qui sont capables de sortir de ce rôle genré où la sexualité ne serait qu'une sexualité de consommation, et qui en plus de ça sont capables de le faire en dehors de la relation amoureuse, puisque là Louisa nous parle bien d'un amant, et ben je pense que c'est un bon signe que ce sont des hommes qui justement explorent les marges de manœuvre en dehors de cette masculinité toxique qu'on leur a eux aussi rentré insidieusement dans la tête à coup de conditionnement social. J'aurais envie de rebondir sur encore plein de choses parce que j'ai trouvé cette interview vraiment, vraiment fascinante et hyper intéressante. Louisa m'a inspirée pour plein d'autres axes d'épisodes. Et en tout cas, je t'encourage vraiment à aller passer faire un tour sur son podcast, Single Jingle. Ses réflexions féministes nourrissent énormément ma vision du célibat. Si tu veux en savoir plus sur l'égalité amoureuse, j'ai une surprise pour toi. J'anime des ateliers sur ce sujet avec des outils pratiques, concrets et efficaces. Je t'offre l'accès gratuit à l'atelier Obtenir plus en faisant moins, l'atelier avec tous les secrets de Michetonneuse pour obtenir l'égalité amoureuse. C'est une vidéo d'une heure bourrée d'astuces pour mettre ton mec au taf sans avoir besoin de passer des heures à lui faire de la pédagogie. Pour recevoir cet atelier gratuit, rendez-vous sur mon site coeurdemicheto.com. Je suis Ellie, je t'envoie du love et te dis à bientôt.